voici, moi le voyageur surgi de l'errance, mille fois arraché de la terre rouge du désert, un printemps. Parmi mes frères, les cyprès arrosés de sueur, là-bas. Dans sa palette d'aurore, le Créateur, béni soit son nom, a mêlé l'extase avec la terreur. Un jour, au village, un Français a débarqué avec dans ses bagages les droits de l'homme, la démocratie et tout le ministère de la liberté. Pauvre naïf, mon frère, tu rêves. Ta justice dans un pays de servitude, tu l'as rembarqué avec tous tes bagages et tes ministères et tout. Et nous t'avons suivi. Comme nous avions suivi Moïse, munis de nos antiques bâtons, de l'autre côté de la mer. Voici l'éternel vagabond, à nouveau déraciné, qui se prosterne devant toi, Seigneur, et chante son cantique sur une terre nouvelle, pour te rendre grâce, pour que l'histoire que mes ancêtres m'ont transmise, notre histoire, votre histoire vous soit comptée, pour que la mémoire de celui qui nous a rendus frères soit honorée en cet anniversaire du bicentenaire de la Révolution française. Il était jadis, dans la terre de França, un fils du Très-Haut, Nephtali ben Dovber, fils de Dov ben Nephtali Ber, dit Serfber de Medelsheim. Que Hachem lui donne la vie éternelle, que les hommes le célèbrent pour l'amour qu'il a montré envers son peuple et tout le genre humain. À Cerbère, mémoire éternelle, au syndic de la nation juive de France, Baruch Hu, ou Baruch Shemo, ou Baruch Zechro l'Olmea. Il suffit de la philosophie des Lumières de Moses Mendelssohn, un devoir immédiat auquel il donna son cœur, sa vie, sa fortune et le reste. Hommage à Cerbère, mémoire éternelle, au protecteur des déshérités. Baruch Hu, ou Baruch Shemo, ou Baruch Zechro l'Olmea. Il fut l'infatigable artisan de la réconciliation des Ashkénazes et des Séfarades. Hommage à Cerbère, mémoire éternelle, à celui qui nous donna le nom de citoyen français. Baruch Hu, ou Baruch Shemo, ou Baruch Zechro l'Olmea. Dans l'Est, les Juifs sont haïs. Ils vivent dans le respect de leurs traditions, la foi et la misère. Cerbère, que Hachem a pourvu de la force du lion, la richesse du prince, la sagesse du tzaddik, est parvenu à l'âge de 40 ans, par un travail acharné, au poste d'intendant des fourrages militaires. Bientôt, il est élu chef de la nation juive, aux prises avec les entreprises calomnieuses de nombreux et puissants intrigants, tel le bailli de Lanzer. Hel, tel est son nom, juge de paix d'âme. Protégé par d'odieux chantages, celui-ci s'enrichit en instruisant des procès truqués à l'encontre des juifs. Puis, soupçonné par l'administration à force de 1000 plaintes, Hel conçoit le dessein de détruire tous les Juifs. Il fait dresser de fausses quittances sur les biens des chrétiens qu'il vend de force aux enfants d'Israël. Le scandale éclate, le roi intervient, Hel est arrêté, démis de ses fonctions et expulsé du pays. Cerber est vainqueur d'un procès contre la ville de Strasbourg. En effet, dès la nuit tombée, les habitants juifs doivent regagner leur ghetto, Bischheim, un petit bourg hors de l'enceinte de la ville où ils sont régulièrement attaqués par des bandes de brigands. Cerber finit par l'emporter sur la mauvaise foi des autorités et devient ainsi le premier juif, résidant nuit et jour, hiver comme été, dans cette bonne ville de Strasbourg. Eu égard à leurs bons et loyaux services, de nombreux juifs du Sud, Cerber, ainsi que d'autres personnalités de l'Est, bénéficient du rang de sujets de Sa Majesté. Mais la grande majorité de leurs coreligionnaires demeurent des parias. En 1784, les lettres patentes de la commission Malesherbes, sous couvert de réformes, restreignent encore la liberté des juifs. Cerber se rend à Versailles. Alors qu'il attend d'être introduit chez le roi, lui apparaît un ange du Seigneur lui disant « Cerber, que viens-tu faire ici? Pourquoi tu ne demandes pas à moi, ton Dieu, ce que tu désires ?» Cerber, se prosternant, invoque alors Hachem. Baruch ata Hashem, Eloheinu Melech Haolam, je t'en supplie, Seigneur, que n'allièges-tu pas le joug de ton peuple? Pendant ce temps, voilà que le roi fait appeler Cerber, mais celui-ci continue de prier. Baruch ata Hashem, Eloheinu. Lorsqu'il a terminé, l'ange lui dit « Mais alors, qu'est-ce que tu attends? Va, cours vite parler au roi, conte-lui donc les malheurs de mon peuple sur son royaume. » Ah là 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 là, quel souci ces enfants! Alors Cerber paraît devant Louis XVI, roi des Français, il dit « Que Sa Majesté veuille bien pardonner à son serviteur son retard. Je présentais justement ma requête au roi des rois. » Alors le roi de França le regarde, lui sourit et dès lors s'apprête à l'écouter avec bienveillance. C'est alors que se lève le vent puissant de la Révolution. Pour les Juifs, c'est une opportunité à ne pas manquer pour acquérir des droits civiques. Mais en contrepartie, ils perdent leur autonomie et voient ressurgir autour d'eux les forces enfouies de la haine. Dans l'Est, c'est la grande peur. Les cahiers de doléances réclament qu'on se débarrasse des Juifs en les jetant dans le Rhin. En mars 1789, Serfvert se rend à Paris où il entend bien plaider la cause des Juifs et faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir leur émancipation et la protection de l'armée. Sur la route de Paris, tu marches seul contre tous. L'image de tes frères gravée sur ton cœur, et au-dedans la flamme du buisson ardent. Sur la route, tu marches seul sur Paris pour la liberté. Les ailes des anges te portent et le vent t'emporte. Et le diable ne te voit pas venir. Sur la route de Paris. Serfvert est responsable de la députation des Juifs de l'Est. Le 26 août 1789, à la suite du fameux vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vient à l'ordre du jour la question de l'émancipation des Juifs. L'Assemblée nationale leur refuse l'égalité des droits civiques. À la tribune, les antisémites marquent des points. En Alsace, les Juifs connaissent de violentes attaques. Livres brûlés, maisons et synagogues détruites, tueries, 18 communautés sont anéanties. Les survivants se réfugient à Bâle et à Mulhouse. 1000 fois la proposition d'émanciper les Juifs est mise à l'ordre du jour, 1000 fois elle est ajournée. Serfvert espère l'emporter grâce à la solidarité de tous les Juifs de France. En effet, à ses yeux, seule l'union justifie un statut indépendant pour une institution communautaire libre. Mais les Juifs du Sud, les « Portugais » comme on les appelle, bénéficient déjà de certains droits qu'ils entendent conserver, à l'instar de leurs corps religionnaires de l'Est, dont la mauvaise réputation leur porte préjudice. Deux jours après une réunion de tous les députés des Juifs chez Serfvert, lors de laquelle est conclu un plan d'action commune, seuls les Portugais accèdent au statut de citoyen. Serfvert se fâche. Arrive enfin le 1001e jour, le 27 septembre 1791. Le député Duport jette de nouveau, dans la conférence sur la liberté des cultes, la question juive dans le débat. Il faut qu'enfin cette question soit résolue et que les représentants du peuple français cessent de se contredire en accordant aux uns la liberté et l'égalité qu'ils refusent aux autres. Alors, rebelle, le tristement célèbre député de Colmar monte à la tribune et déclare avec sa nonchalance habituelle. Encore ces Juifs, toujours ces Juifs, qui, à peine sevrés de leurs crimes sanguinaires, viennent jusque dans cette enceinte débourser, sachez-le, des sommes faramineuses, de cet argent extorqué aux braves paysans français, afin de soudoyer des avocats félons et d'abuser une assemblée trop naïve et généreuse pour se procurer toujours davantage, davantage. C'est plus que le député Regnault n'en peut supporter. Il intervient violemment. Je demande instamment que celui qui veut s'opposer à cette question soit rappelé à l'ordre, puisque par là, il combattrait la Constitution elle-même. Un silence se fait. Puis, on procède au vote. Des mains nouvelles se lèvent timidement, bientôt suivies par d'autres. Ainsi est voté, le 27 septembre 1791, le décret accordant aux Juifs de toute région les droits civiques et le nom de citoyen. Cerbère peut donc rentrer chez lui, mais aux portes de Strasbourg, le diable se met en travers de son chemin. Halte là ! Où vas-tu donc ? Je rentre chez moi, Seigneur. Ne sais-tu pas qu'on a fermé ta synagogue, brûlé tes livres, expulsé les tiens, saisi tes biens, fait interdire ta langue ? Tu voulais la révolution ? Tu l'as eue ! Pas la révolution, Seigneur. La justice. Ta justice et ta loi sont contraires à la raison révolutionnaire. J'oubliais. Ta tête est mise à prix. Monseigneur, aurais-je commis un crime ? Tu as offensé la révolution. Tu es riche et les riches doivent mourir. Tu le sais. Ton argent doit servir à engraisser les pouilleux. Tu as de la chance. La guillotine est encore interdite aux Juifs. Accusé d'empoisonnement public avec préméditation. Tes fûts de vin que tu as fait venir de Bordeaux sont avariés. Comment pouvez-vous dire cela, Monseigneur ? Il est du meilleur cru et il n'est même pas encore arrivé. Je le sais d'avance. Tout le monde le sait d'avance. Soldats ! Cerbère fut emprisonné. Il mourut le 17 frimaire, 7 décembre 1793, au fond d'un cachot. Il fut enterré au cimetière de Rosenwiller. Sur sa tombe, on peut lire cette inscription.
Ici est ensevelie l'âme de celui qui fut fidèle à son peuple et aspira au bien. La couronne de la communauté, il rechercha la justice. Il fut parfait dans sa conduite, aimable envers les pauvres. Pour les nécessiteux, il fut un protecteur contre la tempête. Il craignit Dieu et fut bon pour Israël. Le puissant, le sublime, l'honorable et le distingué Rabbi Naftali Herz Mendelsheim. Sa mémoire soit bénie, sa justice marche devant lui et son âme sera dans le jardin de Dieu se délectant. Il décéda le jour du Saint Shabbat, le 4 Tébet 555 selon le petit compute. Et il fut enterré le lendemain, premier jour de la semaine 5 Tébet. Que son âme soit liée dans le faisceau de la vie avec l'âme des justes et des pieux et qu'il attende son sort à la fin des jours. Amen.